بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شافخان رميسيون الله عز وجل qui nous donne la possibilité dans cette décade, de cette magnifique décade de Dhul-Hijja, Allah Rabbul Izzah de sa clémence nous donne la possibilité de nous asseoir quelques instants pour étudier son din et pour étudier un de ses noms, une de ses qualités, le fait qu'Allah Azza wa Jal est Ghafur Rahim, Allah est pardonneur. Avant le mois de Ramadan, on avait, il me semble, presque complété l'étude de cette qualité d'Allah, Al-Maghfira. Mais je pense que, comme on est dans la première décade du mois de Dhul-Hijja, il est nécessaire de se rappeler des versets du Coran, des hadiths, des textes qui mentionnent le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi est-ce qu'il est important dans cette période, tout comme dans le mois de Ramadan, on parle beaucoup du pardon d'Allah Azza wa Jal, parce que le maghfirah d'Allah, elle est générale durant le mois béni. Mais durant cette première décade, nous avons tous un espoir. Et l'espoir que nous avons durant cette décade, c'est la même que celle qui animait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait parlé du jeûne, du jour d'Arafat. Il a dit, alayhi salatu wa sallam, j'ai espoir qu'Allah azza wa jal pardonne les péchés de l'année, de cette année et de l'année qui va venir. C'est-à-dire que ça doit être le amal, ça doit être l'espoir du croyant. Et qu'est-ce qui fait que nous aurons espoir en Allah? Qu'est-ce qui fait que nous continuerons de croire et d'espérer qu'Allah Azza wa Jal est vraiment capable de nous accorder son pardon? C'est à partir du moment où on sait vraiment, on a une idée, pas qu'on connaît vraiment, mais qu'on a une idée de l'étendue du pardon d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui connaissait le mieux Allah Azza wa Jal, le pardon d'Allah, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il avait toutes les raisons d'espérer qu'Allah Rabbul Izzah, dans sa générosité, dans sa clémence, pardonne les péchés de l'année qui vient de se terminer, qui se termine avec la fin du mois de Dhul-Hijjah, et les péchés de l'année qui va venir. Et en commentaire, les savants, ils donnent une explication très réaliste et très concrète sur ces textes où il n'y a parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'Allah donne, il n'y a pas de limite dans ce qu'Allah promet. C'est là toute la frontière et le décalage qu'il y a entre la compréhension de l'être humain, parce que nous jugeons les choses par rapport au comportement et au retour des autres êtres humains. On va juger le pardon en fonction du pardon des personnes qui sont autour de nous. Ce que les gens sont prêts à nous pardonner, ce sera notre conception du pardon. Ou ce que nous sommes prêts à pardonner aux gens, ben pour nous c'est ça la conception du pardon. Ce que nous sommes prêts à donner à quelqu'un que nous aimons, ou une personne qui nous aime, ce que cette personne est prête à nous donner, ben ce sera ça notre conception du don, notre conception du pardon, notre conception de la générosité, de la clémence, de la bonté, de l'hospitalité, ainsi de suite. Mais ça, c'est un jugement à l'échelle humaine. Et nous avons besoin d'avoir un jugement, une approche de ces qualités par rapport au sifat d'Allah Azza wa Jal. Et ce genre de texte, ce genre de hadith, ce genre de verset du Coran nous donne un aperçu des qualités d'Allah Azza wa Jal qui sont des qualités kamila, qui sont des qualités parfaite et complète. Quand Allah décide de pardonner, c'est un pardon qui est complet, qui est parfait. Quand Allah décide d'avoir rahma, clémence pour une de ses créatures, c'est une rahma que nous ne pouvons même pas imaginer. Même lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait cité l'exemple de cette maman qui a son bébé dans ses mains, et qu'une maman ne pourrait jamais jeter son bébé dans le feu. C'était un exemple pour percuter l'esprit des sahabas afin qu'ils comprennent. Le prophète les interpelle sur un sentiment qui habite le cœur de tout être humain, un sentiment qui est compris par les hommes, l'amour d'une maman pour son bébé. Donc le prophète veut que les sahabas construisent leur conception de rahma par rapport à cette situation et monter de niveau les faire réaliser que la rahma qu'Allah a pour nous, la clémence, l'amour, la pitié qu'Allah a pour nous, ça dépasse la pitié de cette maman pour son bébé. C'est de cette façon, on essaie d'avoir une idée encore plus vaste des qualités, de l'étendue des qualités d'Allah. Et justement, quand on parle du maghfira et quand on parle de ce que nous attendons, mais quand nous sommes là à jeûner pendant ces jours, si on peut jeûner les 9 premiers jours, ça c'est vraiment le top, c'est vraiment l'idéal. Mais au moins, la personne qui va jeûner le 9e Dhul Hijja, et cette personne, quand elle jeûne, elle doit tout d'abord avoir la sincérité, bien sûr, ça ne se discute pas, mais également un minimum de ilm, un minimum de connaissance, connaissance des fadra'il, connaissance des vertus, qu'est-ce qu'Allah nous va m'accorder, et également avoir ihtisab al-ajr, l'espoir de rétribution. Une action qui est accomplie sans sincérité, c'est une action qui n'a pas de valeur. Une action qui est accomplie sans ihtisab al-ajr, avant de ihtisab al-ajr, sans ilm, sans connaissance des vertus, c'est une action qui sera faite certainement, mais l'action ne sera pas faite avec beaucoup de motivation, parce qu'on ne connaît pas grand chose de cette action, si ce n'est que c'est une bonne action. C'est-à-dire, c'est vraiment le strict minimum. Mais plus on connaît les fada'il wal a'mal, les vertus, plus on aura la motivation pour accomplir ces actions. Maintenant, une action qui est accomplie sans ihtisab al-ajr, sans espoir et conviction de rétribution. L'espoir et la conviction, ça doit faire partie des qualités intérieures dans chaque bonne action. Ça doit faire partie également des qualités intérieures lorsque nous demandons tawbah, pour rester dans le thème du maghfira. Mais quand on accomplit une bonne action, on se dit que par cette bonne action, Allah va me rétribuer. Allah aura pitié de moi. Allah va m'accorder telle récompense. Et quand je vais quitter ce monde, quand je ferme les yeux, quand je retourne auprès d'Allah, je vais retrouver les récompenses de ses actions. Tout comme une personne qui investit pendant des années pour la construction ou l'édifice d'un bâtiment, et qu'enfin le bâtiment est livré et qu'il a trouvé des locataires ou qu'il a pu revendre, ainsi de suite, il sait qu'à la fin de chaque mois, il a un loyer. Il sait que c'est maintenant, tous les 10 du mois ou tous les 3 du mois, il sait que à cet instant, il y aura le virement, il va voir le fruit de son travail. Ça, ce sont des connexions que nous arrivons à faire. Mais quand on accomplit une bonne action, intérieurement, nous devons être habités par cet espoir et cette joie que un jour, je vais retrouver cette bonne action. Un jour, je vais retrouver les récompenses de cette salat al-isha. Un jour, je vais retrouver les récompenses de ce petit majlis. On n'est pas nombreux, mais si on s'assoit, c'est vraiment qu'on a envie, on cherche quelque chose et qu'on a envie de donner et de recevoir. Ben, on retrouvera les récompenses de cette assemblée le jour de Qiyama. Ça anime le cœur du croyant. C'est ce qu'on appelle ihtisab al-ajl. Et dans Riyad al-Salihin, il y a beaucoup de hadiths qui rappellent ce principe. Ça fait partie des qualités intérieures que nous devons réunir quand on accomplit chaque bonne action pour vraiment trouver la ladha, trouver la douceur de la foi qu'il y a dans les bonnes actions. Donc le 9e, lorsque nous allons jeûner, nous allons le faire parce que le prophète le faisait, premièrement. Deuxièmement, pour Allah. Enfin, avant tout pour Allah, ikhlas al-niyat lillah. Deuxièmement, mutaba'a, suivre la sunna du prophète et la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, ala ilmin wa basira, avec connaissance. Je sais qu'Allah va m'accorder, il y a telle vertu à travers cette bonne action. Et quatrième qualité que je dois réunir dans mon jeûne du 9e de l'Hijja, c'est espoir de rétribution. Et pour cette action spécifique, quand tu jeûnes et que au moment où, mashallah, il est 18h05, 18h10, au moment de la rupture du jeûne, tu te dis que subhanallah, là je vais rompre mon jeûne et Allah va pardonner tous les petits péchés que j'ai cumulés durant cette année 1438. Et ça paraît extraordinaire, ça paraît énorme, ça paraît démesuré un jeûne par rapport à 360 ou 365 jours d'errement de péché. Et Allah seul sait le nombre de péchés que nous accomplissons au quotidien, volontairement ou involontairement, consciemment et inconsciemment. Mais tout ça, bi-idhnillah, ça peut être balayé, ça peut être complètement effacé par le jeûne de ce jour. Et ça, c'est une spécificité de pour cette umma. Prendre conscience, réaliser, avoir cet espoir de rétribution, c'est-à-dire accomplir l'action de façon intelligente. L'intelligence dans l'action, ça c'est très important. L'éveil du cœur dans le ibada, parce qu'on arrive à intégrer que le ibada, ce n'est pas qu'un rituel, c'est un lien qui nous rapproche d'Allah. La salat al-isha, c'est pas un rituel, même si un rituel c'est quelque chose qui se répète, mais c'est quelque chose qui nous rapproche d'Allah. C'est quelque chose que je fais pour Allah, je sacrifie de mon temps pour Allah, et c'est de cette façon qu'on arrive vraiment à ressentir le ma'na al-ibada al-tadhallul wal-khudu', la soumission à Allah Azza wa Jal à travers les bonnes actions. Et c'est comme ça qu'on va, inshallah, acquérir la concentration, la dévotion dans les bonnes œuvres. Nous restons encore un instant sur cette période exceptionnelle, cette période de cette première décade de Dhul-Hijjah. Et une des actions que nous devons faire le plus souvent, c'est quoi? Le takbir et tashriq. Réciter Allah Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. On a le takbir qui doit être lu après les salats. Ça, c'est à partir du 9e. Ça, c'est un takbir khas. Mais après, il y a le takbir plus ouvert, le takbir général qui commence depuis le premier jour de Dhul-Hijjah. Et ça se fait de façon individuelle, à voix haute si possible, à voix basse si nécessaire, en public si le contexte le permet, s'il n'y a rien qui nous empêche de le faire en public, on le fait, ou alors de la façon qu'on peut, en voiture, en sortant de la salle de Fajr, en bus, dans les embouteillages, essayons de lire le maximum de fois Allah Akbar, le takbir, car le prophète alayhi salat wa salam nous a donné ce conseil durant cette période, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Trois dhikr. Faites le maximum de tahlil. At-tahlil, c'est dire la ilaha illallah. At-tahmid, c'est de dire alhamdulillah. Et at-takbir, c'est de dire Allahu Akbar. Et ces trois formules, nous le retrouvons dans le takbir et tashrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est le takbir. La ilaha illallah, c'est le tahlil. La ilaha illallah, Allahu Akbar. On répète le takbir. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ça, c'est le tahmid. Il n'y a pas meilleur dhikr que ce dhikr, que ce takbir et tashrik durant la première décade. Et lorsque nous lisons le takbir et tashrik, faisons en sorte de le faire là aussi avec conviction. Avec conviction et en ressentant la grandeur d'Allah. Même si on n'est pas expert en langue arabe, il n'y a pas besoin d'être un grand arabophone pour comprendre que quand on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, on est en train de dire qu'Allah est le plus grand. Ben, quand vous marchez, quand vous êtes sur le front de mer, vous êtes quel que soit l'endroit, vous dites Allahu Akbar, vous voyez ce dunya, vous voyez cet océan, vous voyez le ciel, vous voyez la création d'Allah, vous voyez l'immensité de sa création, et intérieurement, vous vous dites Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout ça. Que tout ce que nous voyons là, ça c'est le dunya, ça c'est créature d'Allah. Et Allah est au-dessus, Allahu Akbar. Ressentir la grandeur d'Allah lorsqu'on dit Allahu Akbar. Différence entre celui qui va essayer d'animer son cœur par le takbir et celui qui le lit, même s'il le lit 10 000 fois par jour, mais sans vraiment y réfléchir. C'est ce qu'on appelle l'éveil du cœur dans les bonnes œuvres. Vous savez, les sahaba parfois, comme le prophète avait comparé Abu Bakr aux autres sahaba, lorsque le prophète avait affirmé la supériorité d'Abu Bakr al-Siddiq sur les autres sahaba, le prophète a rappelé qu'Abu Bakr ne vous a pas dépassé par « kathrat al-a'mal ». Il ne vous a pas dépassé par une quantité de bonnes actions, mais il vous a dépassé par la qualité de la bonne action. Lors de Tabouk, ce qu'Abu Bakr avait apporté, sur le plan quantitatif, c'était moins important que Uthman. Umar avait donné la moitié, Uthman une partie. Mais la richesse de Uthman était incomparable avec la richesse d'Abu Bakr. Si on devait quantifier ce que Uthman avait donné, ça dépassait ce que les autres avaient donné. Mais Abu Bakr, quand il donne tout ce qu'il a, il donne son cœur, il donne tout. C'est l'esprit du mujahada, l'esprit du sacrifice. C'est vraiment un cœur qui est connecté avec Allah. C'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui, vous savez. C'est vraiment ça qui fait que nous n'arrivons pas à rester sur le droit chemin. Nous pouvons rester un mois dans le tahajjud, dans la salat al-tarawih, dans la lecture du Coran, dans le dhikrullah, dans le contrôle du regard, dans le contrôle de la langue, dans le contrôle de son caractère, de sa colère, ainsi de suite. Je parle du mois de Ramadan. On arrive, on s'en sort parfaitement. On s'en sort super bien de le mois de Ramadan. Et 4 ou 5 jours après, on recommence à chuter, on recommence à malheureusement revenir vers nos erreurs, vers nos manquements, vers nos péchés. On retrouve nos défauts malheureusement. C'est parce que intérieurement, le cœur n'est pas assez habité par l'amour d'Allah. Et que nous n'avons pas encore vraiment compris le sens du ibadah, l'adoration d'Allah. Même si on le fait, mais le cœur n'est pas encore suffisamment convaincu. Ça doit être un doua, ça que nous devons faire tous les jours. Qu'Allah Rabbul Izzah remplit nos cœurs d'amour pour lui et d'amour pour le Habib, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vraiment ça qui va nous sauver. C'est ça qui nous permettra d'avoir istikhama. Il y a dans Riyad al-Salihin, on expliquait on expliquait, on lisait les commentaires d'un hadith quand un sahaba avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, au prophète d'Allah, enseigne-moi quelque chose. Allimni, enseigne-moi quelque chose. La as'alu ahadan ghayrak. Ça veut dire quoi ça? Cheikh al-Maghrib, la as'alu ahadan ghayrak.
Une question, aucun poisson ne sert cela à part vous.
Les patrons sont là. Je ne demande, je n'aurai besoin de demander à personne d'autre que toi. Le prophète alayhi salat wa salam sait pertinemment que ce sahaba attend une réponse qui est kamil, shamil, qui est complète et qui va apporter entièrement réponse, qui va satisfaire sa demande. Le prophète salam n'a pas fait un discours de deux heures et demie. Il a dit qul amantu billahi thumma istaqim. Bas, dis, j'ai foi en Allah et reste ferme. Reste ferme dans ta foi en Allah et reste ferme dans ta foi sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Reste ferme sur tes a'mal. Ça, c'est la clé du succès. Mais les savants disent que le istiqama ne pourra trouver sa place. Ce istiqama qui nous manque là. Ce istiqama qui fait qu'aujourd'hui on est là comme ça et on n'est pas aussi bien que durant le mois de Ramadan. Alors qu'on était bien durant le mois béni. On était en forme, on était prêt à lire le Coran n'importe quel moment. Si on devait se réveiller à 3h du matin, on se réveillait. C'était comme si que... spirituellement, c'était open. Tout était possible. Tout était réalisable. Rêver, réaliser, n'est-ce pas? D'accord? Et cette fois-ci, on se retrouve lourd. C'est le terme. On est lourd. On est lourd, on est mollasson, on manque de motivation. On a du mal si on nous parle de nous réveiller à 4h30. On se dit que... ouais, mais c'est pas évident. On va mettre plein d'excuses, plein de raisons. Le travail, déposer les enfants à l'école, les engagements professionnels. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à trouver cette niaque spirituelle, ce istiqama? C'est qu'il n'y a pas suffisamment amantu billah. Le prophète du sahaba, qul amantu billahi. Le prophète a-t-il besoin de rappeler au sahaba, dit amantu billah. Sahaba, il vit avec le prophète sallam. Iman billah est dans son cœur. Mais dit, rappelle-toi. Fais revivre ce iman billah. Connais ton Seigneur, adore ton Seigneur, remplis ton cœur d'amour et de crainte d'Allah. Et si ça s'est installé dans ton cœur, le istiqama va suivre. Mais si ça ne s'est pas installé dans le cœur, le istiqama ne peut pas suivre. Parce que l'être humain a dans sa nature, il y a la lassitude. La lassitude. On se lasse et à un moment donné, on manque de motivation. Donc, ikhwani fillah, pour revenir à cette action, quand vous dites Allah Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ressentez la grandeur d'Allah. Et deuxième enseignement que les savants nous donnent, ça, j'ai découvert ça ce matin et j'ai trouvé ça tout simplement magnifique. Quand vous dites Allahu Akbar, réalisez que ça c'est kalimatul haqq. Sahih wa illallah. Ça c'est kalimatul haqq. Quand vous dites Allahu Akbar, ça c'est la vérité. Et ça c'est une vérité qui est indiscutable. Ça c'est une vérité qui prime sur tout ce qu'on peut, on peut croire de ce dunya, quels que soient les problèmes, quels que soient les mensonges, les hypocrisies, quel que soit ce monde trompeur, quelles que soient les apparences, un monde étrange où on ne connaît plus qui est dans le droit chemin, qui est dans le mauvais chemin, qui est blanc, qui est noir, qui est innocent, qui est coupable. Oublie tout ça. On est parfois perturbé par le fonctionnement étrange de ce dunya. Oublie tout ça et dis-toi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça c'est kalimatul haqq. Au moins, tu es en train de dire quelque chose qui est vrai et sur lequel il y a ittifaq, il y a l'unanimité. Et également, quand tu dis Allahu Akbar, ça c'est subhanallah, une nasiha de savants, de pieux prédécesseurs, qui est vraiment intéressant. Quand tu es dans des épreuves, quand tu as des difficultés et que tu lis ce takbir et tashriq, tu te dis que Allahu Akbar, Allah est au-dessus de mes problèmes aussi. Allah est au-dessus de ma situation. Allah est au-dessus de mes taklifs. Allah est au-dessus de mes ibtilas. Et Allah est muttali'un alayh. Allah voit, Allah observe, Allah connaît. C'est lui qui a envoyé la difficulté. Et quand je dis Allahu Akbar, c'est avec cet espoir que Allah, tu sais qui je suis. Tu vois ma situation, tu es le plus grand. J'affirme devant ta création que c'est toi le plus grand. Et Allah, peut-être qu'il aura pitié de moi. Sache que quand tu dis Allahu Akbar, ce takbir, il est au-dessus de ta vie, de tes problèmes, de tes difficultés, de tes craintes, de tout ce qui t'angoisse. Et c'est quelque chose qui nous soulage. Parce qu'à cet instant-là, tu es dans le vrai. Quand tu dis Allahu Akbar, tu es dans le vrai. Ce takbir, il est magnifique. Ce takbir que nous lisons déjà dans les salats. Mais dans l'ayyam ou tashrik, faisons-le vivre avec cette intensité. Hada, qu'Allah nous accepte. Alors, comme il me semble qu'on avait complété, ou presque complété, l'étude de Al-Maghfira, on va juste... quelques hadiths, juste pour se rappeler de l'étendue du pardon d'Allah. Pourquoi? Parce que quand on va, comme on a dit tout à l'heure, le 9e, quand on va jeûner, Inch'Allah, le jour, enfin, Malheureusement, ce n'est pas la même date avec Mecca, mais jeûner le 8e, le 9e, ça va être... au moins, on fait un paquet, on aura tout, Inch'Allah. Quand on va jeûner avec espoir qu'Allah pardonne les péchés de cette année, 1438, et que l'année qui va venir également, les péchés seront, Inch'Allah, pardonnés. Et pour être convaincu qu'Allah est capable de ce pardon qui est illimité, ben on doit essayer de se rappeler quelques textes concernant le pardon. Quand dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'il est ghafir al-dhanbi wa qabil al-tawbi, qu'Allah est le pardonneur des péchés, mais également celui qui accueille l'accueillant au repentir. Il y a deux termes. Le fait qu'Allah pardonne les péchés, mais également qu'Allah nous accueille. Allah accueille l'individu qui se présente à lui. Maintenant, à nous d'essayer de nous rappeler le nombre de péchés, le nombre d'erreurs. Quand vous avez manqué de respect à une personne, de façon incessante, d'accord, et que la personne vous envoie un message, vous signale que c'est bon, tout est pardonné, on fait maf, comme on sait très bien le faire par texto, les veilles de Eid et ainsi de suite. Mais il reste quand même une certaine gêne à se présenter devant la personne, à voir, à affronter le visage de la personne. Mais on doit réaliser que quand Allah Azza wa Jal pardonne, non seulement il nous accorde le pardon, mais Allah est prêt à nous accueillir de nouveau. Et donc, quand nous allons jeûner ce jour de 9e de l'Hijjah, Inch'Allah, c'est avec cet espoir que ce pardon, il est kamil, jazakallah khair, il est kamil et il est complet, shamil. Et également, lorsqu'on analyse la sourate Nuh, dans laquelle Nuh alayhi salam avait dit à son peuple, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, Nuh alayhi salam rappelle à son peuple, demandez pardon à Allah, car Allah est grand pardonneur. Et en commentaire, les Mufassirines disent que Nuh alayhi salam est en train d'inviter un peuple qui a désobéi à Allah pendant 950 années. C'est-à-dire, après 950 années de péché et de shirk, si vous revenez vers Allah, sachez que innahu kana ghaffara. Et ce ghaffara, ce pardon, c'est pour le peuple de Noé, de Nuh alayhi salam. Et que dire du pardon d'Allah pour le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième et dernier verset qu'on va voir, wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Là également le terme lorsqu'Allah azza wa jalla rappelle, et je suis grand pardonneur à celui qui se répand, croit et fait de bonnes œuvres, puis se met sur le droit chemin. Et le terme qui a été utilisé, c'est ghaffar. Et ghaffar, on appelle ça ism tafdil. Ce sont des mots, il n'y a pas l'équivalent en français, ce sont des adjectifs qui montrent l'insistance. Comme Abbad, Hamad, Ghaffar, c'est Allah qui est grand pardonneur. Tout ça pour qu'on réalise qu'Allah est capable de nous pardonner. Et donc, quand nous allons jeûner, Inch'Allah, ce jour-là, c'est avec cet espoir qu'Allah va ratisser tout ce qu'il y a comme péché dans ce qui a été cumulé cette année. Et Allah, Rabbul Izzah, de sa clémence, est capable de nous pardonner. On va clôturer avec un hadith. L'histoire difficile de choisir ce hadith parce qu'il y en a, beaucoup, subhanallah. Un hadith qui nous donne de l'espoir. Quand notre Rabb, notre Seigneur, hadith Qudsi, Anas bin Malik, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, « Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. » Ça, c'est ce qu'on appelle un hadith Qudsi. Quand le prophète dit qu'Allah a dit, « Yabn Adam », et les hadiths qui commencent par « Yabn Adam », ce sont des hadiths Qudsi. « Ô fils de Adam, innaka ma da'outani wa rajoutani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. » Ô fils de Adam, ô être humain, tant que tu m'invoques, tant que tu me supplies, tant que wa rajautani. Ar-raja, c'est quoi? L'espoir. L'espoir. Tant que tu as espoir en moi, tout comme nous avons espoir quand nous allons jeûner, tant que tu m'invoques et tu as espoir, je t'accorderai mon pardon. Ala ma kana fika. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, sans distinguer grand pécheur de pécheur endurci, de pécheur journalier ou petit pécheur. Wala ubali, et cela ne m'importe peu. Cela n'affecte aucunement Allah Azza wa Jal que d'accorder son pardon à une personne qui lui a désobéi pendant des années et des années. Yabn Adam, ô fils de Adam, lo balagat dhunubuka anan as-samaa. Si tes péchés étaient tellement nombreux qu'ils pouvaient atteindre le sommet des cieux, c'est-à-dire de ce dunya jusqu'au ciel, rempli de péchés. Thumma astaghfartani. Mais ensuite tu demandes pardon. Et bien sûr, astaghfartani, après, c'est avec les conditions du tawbatul nasuha, la sincérité, les remords et l'intention ferme de ne plus recommencer. Mais le terme est très simple. Thumma astaghfartani. Et tu me demandes pardon. Ghafartu laka. je t'accorde mon pardon. Et à travers ce terme qui est d'une grande simplicité, il y a en même temps l'annonce. Dans cette simplicité, il y a la bonne nouvelle que Allah pardonne, mais totalement. Ghafartu laka. Allah promet le pardon. Wala ubali. Et cela ne m'importe peu. Ô fils de Adam, si tu te présentes à moi, si tu te présentes auprès de moi avec l'équivalent de ce monde rempli de péchés, et tu me rencontres sans faire le shirk, sache que la ataytuka biqurabiha maghfira, je te rencontrerai avec autant de pardon qu'il y a d'espace dans ce dunya. Ce genre de hadith, on a grandement besoin. Parce que très souvent, on pêche. Très souvent, on s'éloigne du droit chemin. Et ce qui est bien, ce qui est un bon signe, ce qui est positif, c'est le sentiment de culpabilité. À partir du moment où le musulman a fait un péché, a commis un péché, et qu'il regrette et qu'il a des remords, ça veut dire que l'iman est dans son cœur. La pire des situations, qu'Allah nous protège, hein, ça c'est le cœur qui est mort, le cœur qui est rafil, qui est insouciant, que le cœur désobéit à Allah, et le cœur ne pense même pas, ne réalise même pas qu'il a désobéi à son Seigneur. Et du coup, la personne ne pensera même pas à demander Tawbah. Ben, ce genre de personne, ben, c'est lui qui a le point noir sur le cœur. Et le deuxième, et le troisième, et le jusqu'à ce que le cœur devienne noir. C'est ce genre de personne qui rencontre Allah le jour de Qiyamah avec la protège avec en prenant le livret de compte dans sa main gauche derrière son dos. Parce qu'il n'a pas demandé Tawbah. Celui qui a fait l'effort de demander pardon, il obtient le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ce genre de hadith, on en a grandement besoin pour réaliser qu'Allah est Ghaffar, qu'Allah est Ghafour et Rahim, et on doit s'en remettre à lui. Qu'Allah Rabbul Izzah de sa clémence nous accepte et nous permet d'intégrer, de comprendre cette qualité qui est Al-Maghfira. Et Inch'Allah, dans deux semaines, on va démarrer, on va essayer de commencer l'étude d'un autre nom d'Allah Azza wa Jal. Donc faisons passer le message à nos proches pour le jeûne. Si on peut jeûner tous les jours, jusqu'au 9e inclus, c'est une bonne chose. Le Prophète Sam le faisait. Maintenant, si pour des raisons de santé ou professionnelles, ou certaines situations qui font qu'on ne peut pas jeûner mercredi, jeudi et vendredi, ben au moins, ne pas oublier le jeûne du 9e, le jeûne du vendredi. Maintenant, si on peut jeûner jeudi avec, parce que jeudi, il est sunnah de jeûner, et après, bon, il y a un petit pincement au cœur, là-bas, c'est Wukuf Arafat jeudi, donc par rapport à tout ça, khair wa ni'ma. Deuxième chose, deuxième nasiha, faites passer le message à nos proches le takbir, de lire le maximum de fois le takbir. Normalement, dans la première décade, on ne doit pas penser au sacrifice, au dhiya. Là, on est le combien? Le cinquième, me semble, hein? Le cinquième ou le sixième de l'Hijja, on ne doit pas penser au dhiya. Mais si on va au centre-ville, on sillonne un peu certains quartiers, qu'est-ce qu'on trouve? Plein de jeunes, plein de personnes qui cherchent les camions bœufs. Est-ce qu'il y a une livraison à droite, à gauche? Enfin, ils ne cherchent plus maintenant sur les réseaux sociaux. Ils ont déjà les rendez-vous. C'est-à-dire que Al-Bal, l'esprit, le cœur est déjà préoccupé par le sacrifice. Alors que le sacrifice, c'est au moment où tu sacrifies, c'est la bonne action. Il n'y a pas une préparation pour le sacrifice. Mais malheureusement, nos cœurs dévient de l'objectif. Et on va plutôt vers ce qui est accessoire, la beauté de la bête, alors que la yanan Allah al-humuha ou la dima'uha. Mais nous, on va plutôt vers la beauté, vers la grosseur, vers la race, et ainsi de suite. Et on oublie vraiment l'esprit de sacrifice. Ce qui doit nous préoccuper là, en ce moment, c'est uniquement le takbir, les jeûnes et les bonnes actions. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous permet de passer un Eid al-Adha, kitta'a, dans l'obéissance, dans la soumission auprès de nos proches avec muhabba, et que cela soit une source de bénédiction et de pardon pour nos péchés, et que tous ceux qui ont sacrifié, ben, qu'on retrouve inshallah cet animal avec ses poils dans notre mizan et hasanat, dans notre balance le jour de qiyama. Wa ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah khairan.